chapitre 30. Le 19 août 2016, 18h. Pour la cinquième fois, Clotilde essayait d'obtenir une réponse de l'hôpital.
« Répondez, s'il vous plaît, répondez !»
Elle se tenait contre l'olivier, les larmes aux yeux, le dos lacéré, le cœur au bord de l'explosion. Cela dura plus de 10 minutes à maudire un répondeur, à taper 1, puis 2, puis carré, puis étoile. À tomber dans le mauvais service, à insulter une infirmière qui n'y pouvait rien, ne savait rien, qui allait essayer de lui repasser l'accueil. Bip, bip, bip.
Passez-moi ma fille, merde!
Un standardiste l'avait mise en attente lorsqu'elle reçut le double appel. Franck, enfin.
Franck, tu es où?
La réponse de son mari lui parut plus méprisante que celle d'un chirurgien réputé qu'on dérangerait pour un bouton d'acné.
À l'hôpital de Calvi, avec Valentine.
Comment elle va?
Réponds, bordel, réponds-moi.
Je suis avec Cervone et Spinello. C'est lui qui a emmené Valou en urgence dans le 4-4 Touareg du camping. Cervone a essayé de te joindre pendant près d'une heure. Il tombait à chaque fois sur ta boîte vocale. Merde, Claude, pourquoi ton téléphone était-il coupé? T'es irresponsable. Je t'avais laissé Valentine, tu étais où?
Elle était restée une heure à parler avec Jacob Schreiber, oubliant qu'elle avait éteint son téléphone. Impossible de se dépêtrer du vieil Allemand. Il ne parlait que de lui et de son fils Hermann, de sa réussite. Le cyclope était devenu ingénieur à la filiale santé de Bayer, Healthcare AG. Marié à une chanteuse d'opéra, père de 3 enfants blonds, comme toutes les générations de Schreiber depuis Guillaume II. Elle était même repartie avec le numéro de portable du fiston. Hermann était un autre des témoins de l'été 89.
« Tu étais où ?»
répéta Franck. Restez concentré, ne pas craquer. Après tout, Franck était lui aussi demeuré injoignable. Personne ne savait où il se trouvait. C'était Cervone qui avait dû se charger de Valou. Clotilde redemanda sans hausser le ton.
« Comment va Valentine ?»
Franck semblait ne rien entendre, mais lire dans ses pensées.
« Heureusement, Cervone est parvenu à me prévenir. Il a fini par avoir quelqu'un au standard du club de plongée, qui a réussi à contacter le moniteur sur le bateau. Ils m'ont fait remonter. Ils ont ramené tout le monde illico à Galeria, les 15 personnes qui avaient payé leur spot. J'ai foncé tête baissée. J'étais à 10 mètres sous l'eau quand Valentine est tombée, Clo. Toi, tu étais au camping. Et pourtant, c'est moi qui... »
Réponse à tout, sauf à sa seule question. Cette fois, la voix de Clotilde explosa.
Comment va Valou, merde?
Tu t'inquiètes pour elle, maintenant?
La pointe d'ironie dans la voix de Franck eut l'effet d'une goutte d'acide sulfurique tombée sur son cœur.
Enfoiré. Dis-moi seulement comment va ma fille. S'il te plaît, Franck,
supplia Clotilde. Tu as eu ce que tu voulais. Tu les as entendus, les sanglots dans ma voix. Alors c'est bon, réponds-moi.
Elle va bien,
concéda Franck.
Elle souffre seulement de quelques contusions, au coude et sous la voûte plantaire. Jérôme, son moniteur de canyoning, ne tarit pas d'éloges. Elle a su se remettre en position bâton sans paniquer, en moins de quelques secondes. Un saut de 10 mètres sans une égratignure. Elle est douée. Peu de filles s'en seraient sorties comme elle. Peu de garçons aussi. Tu as une fille extraordinaire, tu sais. Exceptionnelle, belle, courageuse. La tête sur les épaules.
N'en rajoute pas, Franck. Le message est passé. Ta petite chérie est parfaite. Alors faut que sa mère arrête de l'emmerder.
Vous revenez quand?
Pas tout de suite. Les toubibs veulent tout de même la garder un peu au repos. Il y a une tonne de papier à remplir aussi. Cela aurait pu être grave, Clo. Terriblement grave. Un drame. Tu ne te rends pas compte.
Si, salaud. Clotilde aperçut la Passat garée devant le bungalow alors qu'elle revenait de la douche. Il était près de 20h. Elle accéléra le pas alors que Valentine stoppait le sien. Clotilde prit sa fille dans ses bras, sans réfléchir, sans calculer. Son visage arrivait tout juste à la hauteur du cou de cette grande perche de Valou,
mais ça ne l'empêchait de répéter. « Ma petite fille, ma pauvre petite fille, Dieu merci, tu n'as rien. » Valentine semblait plutôt gênée. « T'es toute mouillée, maman. » Clotilde s'écarta enfin de sa fille. Sa serviette enroulée autour d'elle avait trempé le t-shirt Adidas de Valou. Rien de méchant.
« Je vais me changer. »
Moins de 2 minutes plus tard, Valentine avait troqué son t-shirt contre un top vert fluo. Son jogging coupé au mollet contre une jupe mi-cuisse. Nouer ses cheveux dans un chignon habilement déstructuré. Maquillée, lèvres et yeux.
« Je vais rejoindre les autres. »
Elle avait frôlé la mort et, visiblement, s'en foutait. La mort n'était sans doute pour elle qu'une vieille dame à qui il fallait dire bonjour avec politesse quand on la croisait. Une vieille dame qu'elle ne reverrait jamais. À 15 ans, on est immortel.
« Qui ça, les autres ?»« Tahir, Nils, Justin, tu veux leur papier d'identité ?»
Clotilde ne répondit rien. Une nouvelle fois, elle peina à repousser ce pressentiment, cette impression de danger qui rôdait autour d'eux. Franck s'était servi une pietra. Il semblait marqué par les heures passées à l'hôpital. Pourtant, Clotilde n'arrivait pas à ressentir de véritable compassion. Elle n'avait toujours pas digéré ses allusions au téléphone. À la réflexion, il n'avait pas le monopole de l'angoisse. Son cœur s'était tout autant soulevé que celui de Franck quand elle avait appris l'accident de Valou. Elle s'était tout autant rongé les sangs. Elle peinait encore à se calmer. Qu'est-ce qu'il croyait ? Franck alignait les bonbons verts, rouges et bleus à Candy Crush, tout en répondant avec un détachement aux questions de Clotilde, comme on le fait après une journée de boulot épuisante. Oui, le mousqueton avait lâché. Non, on ne savait pas pourquoi. Apparemment, le matériel était usé, mais il n'avait rien remarqué avant, lors de la vérification. Non, le moniteur de canyoning n'était pas en cause. Au contraire, il avait plutôt assuré. Oui, ils étaient tous vraiment désolés, mais ça peut arriver. Non, ils n'avaient pas envie de faire un scandale, de porter plainte ou d'aller plus loin. Oui, tout se terminait bien. Une bonne nuit par-dessus et on n'en parlait plus. Les mots cognaient encore dans la tête de Clotilde. Irresponsable. Tu ne te rends pas compte? Tu étais où? Cette fois, après avoir lancé ses poignards, Franck les avait laissés planter. Une fois l'émotion passée, il n'avait pas eu un mot d'excuse. Elle avait retenu ses larmes. Elle se souvenait de cette phrase, lue quelque part. « Femme qui pleure devant son amoureux obtient de lui tout ce qu'elle veut. Femme qui pleure devant un homme qui ne l'aime plus est foutue. » Elle hésita, puis se lança.
« On est certain que c'est un accident ?»
Franck laissa d'un coup exploser en confettis ses confiseries, censées s'aligner par trois. En moins d'un demi-tour de tête, toute son attitude, du ton de sa voix à son regard, était passée de la lassitude à l'agressivité.
« Tu veux dire quoi ?»«
Rien. C'est seulement le cumul des coïncidences. Cette chute de Valou, un mousqueton qui lâche, il y a 6 jours, mes papiers volés. Ce matin, la table du petit-déjeuner.
Arrête !»
Il posa son téléphone portable avec violence sur la table de camping, à en faire trembler les pieds de plastique enfoncés dans la terre et soulever une fine poussière.
« Arrête ! Ta fille a failli mourir, Claude. Alors redescends sur terre et arrête de délirer avec tes vieilles histoires, avec tes vieux courriers, avec tes amis perdus et retrouvés. Putain, Clotilde, arrête ce cirque ou je vais craquer !»
La chaise en plastique valsa quand il se leva. Franck perdait ses nerfs. Chez lui, c'était très inhabituel. Sans doute parce qu'il était à bout, parce qu'avoir cru sa fille morte ou paralysée à vie était également très inhabituel. Parce qu'elle aussi aurait dû être dans un tel état post-traumatique. Une mère indigne. Franck attrapa son portable, le glissa dans sa poche, s'éloigna.
Un détail aussi. Quand tu vas prendre ta douche, n'oublie pas ton téléphone sur le lit.
Merde. Immédiatement, Clotilde repensa au texto de Nathalie. Elle avait échangé quelques messages avec lui avant d'aller prendre sa douche, après avoir été rassurée sur l'état de santé de sa fille.
Clotilde devait revoir Nathalie et demain. Il avait invité un fantôme à prendre le thé. C'était ses termes. Un fantôme qui ne voulait parler qu'à Lydia Dietz. Leurs échanges n'avaient rien de très compromettant. Mais Franck n'était pas idiot, et chaque phrase était sous-tendue par un sous-entendu. Clotilde était, elle aussi, capable de perdre ses nerfs, de mordre s'il le fallait.
Mon téléphone oublié sur le lit? Tu l'as ouvert? Tu as fouillé?
Pourquoi, tu as quelque chose à cacher? Avait-il osé? Franck fit 3 pas dans l'obscurité.
Ils organisent un poker au bar. Il y a quelques habitués. Chervonet m'a invité. Je crois que je vais y aller.
Avant de définitivement disparaître dans la nuit, il se retourna.
Pour la dernière fois, Clotilde, je t'en supplie, oublie. Occupe-toi de ta fille. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de ce qui se passe aujourd'hui. Et tout le reste, oublie.